Tous, nous revoilà avec l'automne après l'interruption de l'été. Donc je suis toujours content d'être à la place où, que vous me prêtez certains dimanches là pour ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je voulais dire deux choses avant de commencer. D'abord, c'est difficile de prendre la parole après ces témoignages qui ont été poignants, chacun à leur façon, mais on va essayer. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, puisque j'ai l'occasion de m'adresser à tous, certains le savent peut-être, nous avons décidé de nous installer à Thonon-les-Bains. Donc, je suis très ému. Vous aurez l'occasion de nous supporter, dans tous les sens du terme, plus régulièrement encore. Voilà, je pense que ça se fera en 2018. Bien, aujourd'hui nous n'allons pas, contrairement aux deux années précédentes, commencer l'étude d'un livre, ça sera peut-être d'un livre biblique, ça sera peut-être pour la prochaine prédication au début de 2018, mais aujourd'hui je voudrais saisir un peu une certaine actualité, me souvenir avec vous que cette année est le 500e anniversaire de l'acte fondateur du protestantisme. Bon, de nombreuses manifestations, souvent des expositions bibliques, sont organisées en plusieurs endroits. Et donc, je voulais saisir cette occasion pour parler de l'importance de la Bible dans nos vies. Et avant de le faire, et comme la personne de Martin Luther est très liée à l'acte fondateur du protestantisme il y a exactement 5 siècles, je vais dire, si vous permettez, quelques mots sur la vie de Martin Luther. Donc, il est né en 1483, il est considéré comme l'initiateur du protestantisme, et dans cette mesure, on peut dire que ses idées ont changé le cours de la civilisation occidentale. Il était d'origine modeste, mais il a fait de solides études, il est entré à l'université à 18 ans, il s'est essayé au droit, et finalement, il a bifurqué vers la théologie et la philosophie. À 22 ans, il manque d'être frappé par la foudre qui tombe à ses côtés. Alors il y voit un appel, une vocation, et il entre dans l'ordre mendiant des Augustins. Il est ordonné prêtre à l'âge de 24 ans, il devient docteur en théologie à l'âge de 29 ans, et en 1517, donc il y a 5 siècles exactement, à l'âge de 34 ans, il entre en fait en conflit avec le pape qui recueillait de l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome en faisant vendre, comme ça se faisait à l'époque, dans toute l'Europe, ce qu'on appelait des indulgences. C'est-à-dire des indulgences, faut-il préciser, qu'acheter des indulgences, c'était en gros, du moins on le disait et on le croyait, un moyen pour les âmes d'échapper aux peines éternelles. Et la veille de la Toussaint 1517, c'est l'acte fondateur dont je parlais au début, Luther a fait connaître 95 propositions qui mettaient de fait en cause le pape. Finalement, à l'issue d'un procès, il a été excommunié en janvier 1521 et il a passé le reste de sa vie sous la protection d'un homme important à l'époque qui était l'électeur de Saxe, Frédéric III le Sage. Entre-temps, il avait découvert, et nous approchons là du sujet du jour, le salut par la foi en Jésus-Christ, en étudiant notamment la lettre aux Romains. Et dans la deuxième partie de sa vie, il s'est employé à faire connaître ses idées en matière de salut, et il a jeté ainsi les bases de ce qu'on a appelé dorénavant le protestantisme. Il a traduit, fait remarquable, la Bible en allemand à partir des textes originaux à cette époque-là, dans la deuxième partie de sa vie, et il est mort à 63 ans en 1500. 46. Alors, de son enseignement, on a l'habitude de retenir de manière ramassée 5 affirmations choc. Je vais parler de l'une d'entre elles, par l'écriture seule, sola scriptura. Alors, simplement pour mémoire, les autres sont par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul, à Dieu seul la gloire. Alors, sauf changement de ma part, je ne parlerai pas de ces quatre autres affirmations dans les prochaines prédications et simplement de celles que j'ai annoncées pour aujourd'hui. Voilà, le plan de la prédication, trois parties. L'écriture seule, c'est une affirmation qui est encore toute actuelle, cinq siècles après. L'écriture seule, on va lire deux passages bibliques ensemble. Et puis, je dirais, l'écriture seule pour nous aujourd'hui. La Bible seule pour nous aujourd'hui, dans un aspect plus pratique. Voilà, on peut passer à la première partie. L'écriture seule, une affirmation encore toute actuelle, pleinement actuelle. Alors, je vous entraîne dans un voyage dans le temps et l'espace. Dans une première partie, nous sommes à Wittenberg, la ville de Luther, en 1517. Et dans une deuxième partie, nous sommes dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, en 2010. Alors, on attribue à Luther le propos suivant que vous avez sous les yeux, dont je n'ai pas retrouvé la source, mais qui lui est attribué, semble-t-il, l'écriture. Et seule l'écriture constitue la norme par laquelle tous les enseignements et doctrines de l'Église doivent être mesurés. Tous les enseignements et doctrines de l'Église doivent être mesurés avec l'étalon de l'écriture et de l'écriture seule. Moi, ça me fait penser à ces habitants de la ville de Béret qui nous racontent le chapitre 17 du livre des Actes, examinaient chaque jour les écritures pour voir ce que Paul et Silas leur disaient était juste, était vrai. Alors, à cette époque-là, il y a cinq siècles, eh bien, le propos attribué à Luther qu'on a sous les yeux traduit clairement une opposition marquée à l'Église catholique qui déclarait que l'Église seule peut définir, l'Église catholique seule pouvait définir le sens exact et la bonne interprétation de la Bible. Alors, j'ouvre une parenthèse. Et je dis tout de suite que je ne veux pas me placer dans une attitude polémique. Mais je dois dire que, c'est mon avis, la position de l'Église catholique n'a pas fondamentalement changé sur ce point depuis l'époque de Luther. Par exemple, prenons le dogme de l'infaillibilité pontificale. Il précise que le pape ne peut pas se tromper, non pas en toutes circonstances, mais quand il s'exprime ex cathedra. C'est-à-dire quand il s'exprime du haut de la chair et quand il parle en matière de foi et de morale. Le dogme dit que dans ces circonstances-là, il ne peut pas se tromper. Alors on peut dire, mais c'est un dogme, c'est ancien. Pas du tout. Celui-ci date de 1870. Il a moins d'un siècle et demi. À l'échelle de la vie de l'Église, c'est rien. Ce dogme est un dogme récent. Alors, je ferme la parenthèse. Je ne veux pas être polémique sur ce point. Alors, on peut retenir, peut-être en termes un peu plus modernes que ce que la première alinéa de ce que vous avez sous les yeux, deuxième formulation, la Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la vie chrétienne. Alors, c'est la position des évangéliques. C'est notre position, ma position, votre position. Et pour appuyer ce point de vue, je veux dire deux mots de ce qu'on appelle l'engagement du Cap. Alors, cet engagement est le résultat d'un congrès pour l'évangélisation du monde qui a eu lieu dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, en 2010. Il a rassemblé 4200 responsables évangéliques provenant de 198 pays. C'est-à-dire, c'est pas rien. Ni sur le nombre des congressistes, ni sur le nombre des pays représentés. Et ce congrès a fait suite à deux autres congrès, l'un qui a eu lieu de l'autre côté du lac, à Lausanne en 1974, et l'autre qui a eu lieu à Manille en 1989. L'engagement du Cap, on peut le lire, c'est un petit livre au format de poche, le texte est d'ailleurs accessible aussi en PDF sur Internet, et pour vous convaincre, pour nous convaincre, que l'expression « l'écriture seule » est d'une actualité totale, je lis une quinzaine de lignes de cet engagement qui porte sur plein de choses, mais en particulier sur le thème de l'importance et l'autorité de la Bible. 15 lignes. Nous aimons, ce sont les congressistes qui parlent, nous aimons la parole de Dieu qui se trouve dans les écrits des Anciens et Nouveaux Testaments. Et nous renvoyons l'écho joyeux du plaisir que le psalmiste prend dans la Torah. Moi, j'aime tes commandements plus que l'or. Oh, que j'aime ta loi, dit-il. Nous recevons, les congressistes auprès de la parole, toute la Bible, comme la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, dite et écrite par des auteurs humains. Nous nous soumettons à son autorité suprême et unique qui gouverne nos croyances et notre comportement. Nous témoignons de la puissance de la parole de Dieu pour accomplir son dessein de salut. Nous affirmons que la Bible est la parole écrite définitive de Dieu, qu'aucune autre révélation supplémentaire ne la surpasse. Donc, à ce stade de la prédication, je pense qu'on peut dire que l'actualité de l'affirmation « l'Écriture seule » est bien établie pour ce qui concerne le monde évangélique. Alors, nous pouvons passer à la deuxième partie. Deuxième partie, je vous propose, dans le thème de l'Écriture seule, deux lectures. Deux lectures qui traitent de deux questions. Première question, pourquoi la Bible est-elle une autorité ? En guise de réponse, je lis avec vous dans le psaume 19, je dis 19, pas 119, on aurait pu dire 119 aussi, mais c'est 19. Dans le psaume 19, nous lisons un passage, et la Bible est une autorité parce qu'elle est la parole de Dieu. Alors ce psaume 19, que je ne connaissais pas bien, me semble être très exactement dans notre sujet. Je lis du verset 8 au verset 12. La loi de Dieu est parfaite. Donc, psaume 19, verset 8. La loi de Dieu est parfaite. Elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences. Elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donne du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur Éternel en tire instruction, il y trouve un grand profit. La Bible est donc une autorité parce qu'elle est la parole de Dieu et parce qu'elle est sans erreur. C'est ce que dit ce psaume. Je relis quelques passages du psaume. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Verset 8. Ses exigences sont justes. Ses ordres sont limpides. Verset 9. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Verset 10. Et c'est parce que ces affirmations sont dignes de confiance que, là je reprends encore des termes de la lecture que j'ai faite, parce que ces affirmations sont dignes de confiance, que la loi de Dieu donne la sagesse, c'est parce que ces exigences sont justes qu'elles font la joie du cœur, c'est parce que ces ordres sont limpides qu'ils donnent le discernement, c'est parce que les décrets de l'Éternel sont vrais et parfaitement justes qu'ils sont plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux. Ouvrons une parenthèse. La Bible est une autorité parce qu'elle est sans erreur. Que faut-il comprendre par là ? Cette affirmation porte-t-elle seulement sur ce qui touche à la foi et au salut ? Autrement dit, sur le cœur de la Bible ? Ou porte-t-elle sur l'ensemble de la Bible ? Eh bien, je dis deux mots de ce qu'on appelle l'inhérence de la Bible. Affirmer l'inhérence de la Bible, c'est affirmer que l'ensemble de la Bible est totalement sans erreur. C'est ma conviction. Admettre que la Bible comporte une erreur, même sur un point que je jugerais secondaire, cela revient à jeter la suspicion sur l'ensemble du texte. S'il y avait une erreur sur un point jugé secondaire, pourquoi n'y en aurait-il pas sur d'autres points plus cruciaux qui constituent les fondements de la foi et du salut. Mettre en doute l'inhérence de la Bible ramènerait la Bible au rang d'un livre humain, ce qui n'est pas. Défendre l'inhérence de la Bible, est-ce que ça signifie que nous comprenons tout ce qui est écrit dans la Bible ? Ben certainement pas. En tous les cas, c'est mon expérience. Mais Pierre ne dit-il pas, lui aussi, qu'il y a dans les écrits de Paul des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi des autres textes de l'Écriture, de Pierre 3,16. Je ferme cette parenthèse sur l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire l'absence d'erreur dans l'ensemble de la Bible. Deuxième question. Pourquoi la Bible est-elle la seule autorité ? Point numéro un, c'est une autorité. Point numéro deux, c'est la seule autorité. J'aurais pu lire le passage qu'a choisi Pedro, Hébreux 4, la parole de Dieu est vivante, efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âmes et esprits, jointures et moelles, et juge ainsi les dispositions et les pensées du cœur. On aurait pu lire ce passage. J'ai choisi de lire un autre passage dans 2 Timothée. Vous avez la référence sous les yeux, 2 Timothée 3, chapitre 3, versets 14 à 17. Voilà. 2 Timothée 3, 14 à 17. Pour toi, Paul s'adresse à Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La Bible est la seule autorité parce qu'elle est pleinement suffisante. Paul s'adresse ici à Timothée, qu'il appelle par ailleurs son enfant bien-aimé. Il le renvoie à sa connaissance des Écritures, qui remonte à son enfance, sur les genoux de sa mère et de sa grand-mère. Les Écritures sont source de sagesse, source de la vraie sagesse, celle qui conduit au salut en Jésus-Christ. Les Écritures, en fait, sont pleinement suffisantes, non seulement pour conduire au salut, mais d'après ce texte, pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, et, on touche à quelque chose d'important, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Les Écritures sont pleinement suffisantes, non seulement pour conduire au salut, mais aussi pour, je cite le texte, préparer et équiper parfaitement l'homme de Dieu pour accomplir toute bonne œuvre. Les Écritures sont donc pleinement suffisantes, non seulement pour notre salut, mais aussi pour nous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. On parle ici de sanctification. Mais encore pour nous préparer et nous équiper pour accomplir toute bonne œuvre. On parle ici de service. Donc la parole de Dieu est une autorité, la parole de Dieu est l'unique autorité. Nous passons à la troisième partie. La Bible pour nous aujourd'hui. La Bible à Thonon-les-Bains à Grenoble en 2017. Alors, la Bible est-elle pour moi ? L'Écriture, c'est-à-dire est-elle pour moi la parole de Dieu sans erreur? Je cite Sébastien Fatt. C'est un historien français contemporain. Il est spécialisé dans l'étude du protestantisme évangélique. Il a publié plusieurs livres. Et dans l'un d'entre eux, dont je n'ai pas noté le nom, mais nous l'avons à la maison, il met en évidence quatre caractéristiques du protestantisme évangélique français. Je ne vais pas les citer tous les quatre, mais la première caractéristique, c'est ce qu'on appelle, le mot est compliqué, le biblicisme, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle la norme de la foi est donnée par l'Écriture sainte seulement, par la seule Écriture sainte, la norme de la foi. Alors, cette information recouvre sans doute des situations diverses. Laissez-moi vous raconter, pour sourire, mais peut-être pas seulement, et peut-être pas du tout, une courte histoire dont je peux vous donner les sources. Un pasteur visite une famille de sa communauté. Ça se passe dans le sud de la France, dans la région du Gard. On évoque le passé des ancêtres huguenots morts aux galères du roi. On dit, dans cette maison, posséder 5 Bibles. L'entretien continue, on approche de la fin. Le pasteur, voulez-vous que nous lisions un passage de la Bible? Si ça vous fait plaisir. Je demande qu'on m'apporte une Bible, raconte ce pasteur. Et après 5 minutes de recherche, la personne revient un peu penaud en disant, je n'ai pas pu en retrouver une seule. Alors il reste au pasteur à sortir sa propre Bible pour lire un passage. Fin de l'histoire. Alors, cette histoire est presque une allégorie. On peut la prendre comme ça. C'est une histoire vraie, hein, mais c'est presque une allégorie. En tous les cas, elle nous questionne. Elle me dit, Jean-Paul, est-ce que tu es un lecteur assidu de la Bible ? Assidu, moi j'aime beaucoup l'étymologie. Je suis allé voir ce que ça voulait dire assidu. Je me suis dit, est-ce que ton terme est exact là ? Celui qui est assidu, c'est celui qui est assis à côté. Autrement dit, ta Bible, l'as-tu toujours sous la main? Es-tu un lecteur assidu de la Bible? Jean-Paul, est-ce que tu as un programme de lecture qui te permet de lire toute la Bible? Ou bien est-ce que tu lis selon l'inspiration du moment? Ou bien est-ce que tu lis à Ésaïe 64? Jean-Paul, combien de fois as-tu lu la Bible intégralement dans ta vie? Ce sont des questions. Certains les jugeront un peu quantitatives, hein, ces questions. C'est vrai. Mais c'est sans compter avec d'autres questions plus qualitatives. Ai-je du plaisir à lire la Bible? Dans quelle mesure la lecture de la Bible influence-t-elle ma vie spirituelle, ma vie personnelle, pratique? Ai-je du plaisir à parler de la Bible aux autres? Dans l'Église? Hors de l'Église? En plus de ma lecture individuelle de la Bible, est-ce que j'ai ou est-ce que j'aurai du plaisir à la lire en groupe? Et puis plein d'autres questions peut-être qui vous viennent à l'esprit. Hein? Dans une église, les approches des Écritures sont multiples. Il y a une lecture communautaire, il y a une lecture en groupe, il y a une lecture en famille, il y a la lecture personnelle. Alors, je limite maintenant à la lecture personnelle de la Bible. Parce que, pour cette forme de lecture-là, eh bien, la responsabilité de chacun est engagée. Ma responsabilité à moi est engagée pour ma lecture personnelle. Pleinement engagée, chacun, pour ce qui le concerne. Alors, je voudrais dire que mon propos qui va suivre risque d'être jugé culpabilisant. On me l'a déjà reproché, il y a fort longtemps, un jour où je parlais sur un sujet voisin. Je veux dire que je n'ai pas l'intention de culpabiliser quiconque. Je veux simplement partager un mot d'ordre issu de mon expérience, et cela sous forme de deux exhortations. Une courte, une un peu plus longue. Abordons la première. Elle tient en peu de mots. Décider de lire la Bible chaque jour. Pourquoi ne pas décider, ou décider tout à nouveau, de mettre la lecture personnelle de la Bible comme priorité dans ma vie, avec cela comme perspective de pouvoir dire dans quelque temps, ben, je pèse mes mots, j'ai presque toujours honoré cet engagement solennel devant Dieu. Vous avez noté que j'ai mis un bémol dans le presque. Bon, C'est ma première exhortation, la première exhortation. J'en donne une deuxième, elle est un peu plus qualitative, elle décrit ce que pourrait être la lecture personnelle de la Bible. Dans la pratique, elle se devrait d'être quotidienne, on vient de le voir, se nourrir tous les jours, nourrir son âme tous les jours. Elle devrait être systématique, lire la Bible intégralement et pas seulement certains livres. Elle devrait être faite aussi à rythme, je vais dire, suffisamment soutenu pour aborder notamment les livres longs sans perdre le fil de la pensée de l'auteur. J'arrive au 45e chapitre, qu'est-ce qu'il disait au début ? C'est dommage. Donc il faut quand même un rythme suffisamment soutenu pour ne pas perdre le fil de la pensée de l'auteur. Ben, tout cela revient à se donner un plan de lecture de Genèse à Apocalypse, à suivre ce plan de lecture à rythme régulier. Et sauf erreur de ma part, c'est ce qui est pratiqué dans les instituts bibliques. Et par exemple, je crois savoir, je sais, qu'à l'Institut biblique de Genève, à Grenoble, on est beaucoup en relation avec l'Institut biblique de Genève, on préconise aux étudiants de lire la Bible chaque année. À chacun de se fixer un objectif qu'il juge raisonnable pour lui. À chacun de se fixer un objectif qu'il juge raisonnable pour lui. J'évoque brièvement, et je terminerai là-dessus, le témoignage de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui était très connu dans la famille d'église auquel nous appartenons à Grenoble. Cet homme s'appelle Ralph Chalice. Il avait un ministère d'enseignement au sein de l'église, hein, mais particulièrement dans la famille d'église auquel nous appartenons à Grenoble. Et dans l'un de ses livres intitulé « Si tu veux aller loin », il explique, vous pourrez faire le compte, qu'il suffit de lire 3 ou 4 chapitres par jour pour lire la Bible en un an. Tous les jours, évidemment. Si on oublie un jour, si on n'a pas le temps un jour, c'est 6 ou 8 si on peut tenir le rythme le lendemain. Quoi. Il explique pourquoi. Il explique qu'il a observé dans la biographie d'hommes connus 2 choses, 2 constantes. La première, c'est que ces hommes de Dieu connus avaient tous une vie de prière très développée. Et la deuxième, c'est qu'ils lisaient la Bible entière chaque année. Il écrit 4 lignes sur ce sujet. Je me suis mis, à un certain moment de sa vie, il l'explique dans son livre « Si tu veux aller loin », dans quelles circonstances il a pris ses décisions, je me suis mis à lire consécutivement la Bible entière comme eux. Les 2 testaments ensemble, en commençant par la Genèse et par Matthieu, et en me fixant le but de tout lire en un an. Et de répéter chaque année, bien sûr. Jamais, dit-il, je ne regretterai cette décision. Voilà, que chacun se fixe un objectif qu'il juge raisonnable pour lui. Moi, j'ai eu des rythmes de lecture personnelle de la Bible différents à certaines périodes de ma vie. C'est certain. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée. C'est par elle que nous apprenons à te connaître. C'est par elle que nous apprenons ce qui te fait plaisir. C'est elle qui nous guide dans la vie. Et c'est elle que nous recherchons et nous voulons te remercier parce que nous pouvons la lire librement. Donne-nous d'aimer ta parole, donne-nous d'en faire nos délices. Donne-nous de la lire régulièrement et intégralement, mais dans notre cœur le sérieux que tu souhaites, pour que nous puissions entrer dans les trésors que tu nous réserves en elle. Donne-nous non seulement d'en faire la nourriture de notre âme, mais aussi de la partager autour de nous, et déjà dans notre famille. Donne-nous aussi de la faire connaître autour de nous. Amen.